On rejoint nos invités de cette première partie du magazine. Bienvenue, donc, je vous disais, dans le studio de Canal Sud, monsieur Attac. Et madame Aquilé. Si vous êtes là, c'est qu'aujourd'hui, donc, c'est un anniversaire, un triste anniversaire, comme je le disais en introduction de ce magazine. Il y a 4 ans, jour pour jour, à Paris, rue Lafayette, au sein du centre d'information du Kurdistan, était assassinée Sakine Janssez, fille d'Doğan, et Leyla Şaylemez. Voilà, toutes les trois militantes kurdes. Donc un certain nombre d'hommages sont prévus ces jours-ci. À Paris, samedi, quelques 5000 personnes ont manifesté entre la gare du Nord et la place de la République. Et à Toulouse, on vous attend à partir de 18h30, place du Capitole, pour un rassemblement hommage. Alors peut-être avant toute chose, pour commencer, il serait bon de préciser qui sont ces trois militantes. Oui. Qui ont été assassinés donc le 9 janvier 2013.
En fait, Sakine Janssez, c'est une personnalité vraiment importante pour les Kurdes, puisque elle était fondatrice d'une des fondatrices de PKK, de parti des travailleurs de Kurdistan. Et c'était la première femme qui était depuis tout au début du parti travailleurs de Kurdistan.
Une des rares femmes donc fondatrices du parti.
Elle était fondatrice et c'est pour ça que pour les femmes en tant que femme aussi militante kurde, elle était très importante pour tous les Kurdes, d'ailleurs pour tous les droits des femmes aussi, elle était luttée. Et Fidan Doran aussi, elle était toujours au centre d'information du Kurdistan. Elle était là, elle travaillait, mais également, elle était représentante en France de Congrès national du Kurdistan. Et c'est une jeune fille qui elle était kurde, elle était autant de relations jusqu'à François Hollande. Elle travaillait légalement, démocratiquement pour raconter un peu les Kurdes, ils sont dans quel état. Et Leyla Şaylemez, c'est une jeune militante kurde qui elle était seulement à ce moment-là, elle était là. En fait, ce n'était pas ciblée directement par Ömer Güney. En fait.
Oui, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment.
Exactement. Et c'est pour ça que Sakine Janssez, pour nous, en fait, Abdullah Öcalan, c'est leader de parti PKK, en fait, Kurdistan, travail de Kurdistan. Il a dit que le Sakine, ça veut dire que si c'est assassiné, ça veut dire que c'est nous qui en fait a ciblé, c'est moi qui a ciblé. Ça fait un peu de faire sous souvenir de à l'époque en 2013, c'était commencé en fait entre le gouvernement turc et le parti PKK. Pour la paix. Ça avait commencé une négociation de paix. C'est une menace, en fait. Abdullah Öcalan, il a pris ça comme une menace que ce ne sera pas réalisable, en fait. Le tueur, en fait, l'assassinat de Sakine Janssez, c'était ça pour nous.
Et, c'est un message, oui.
C'est un message, vrai message, oui.
Parce que Sakine Janssez était une proche de Öcalan.
Elle était fondatrice, elle était avec Abdullah Öcalan, qui tout au début, le parti, elle était avec eux. C'était seule dame qui elle était entre les. À l'époque, si vous-même, maintenant, vous imaginez, une seule dame qui elle était avec les. Au maquis, en fait, à la montagne ou en cachette de travailler. C'était vraiment une lutte qu'elle a fait. En plus, ils ont mis en prison, ils ont torturé, ils ont coupé avec la torture, ils ont coupé le sein, malgré ça, en fait, elle n'a pas parlé. Elle est toujours révoltante. Elle était toujours révoltante. Après, en fait, le 1980, après, il y avait un coup d'État. À ce moment-là, ils ont mis en prison.
L'État en Turquie. Hein.
En Turquie, bien sûr. En Turquie, ils ont mis en prison. Et après, ils ont assassiné. Ils ont mis dans le prison de Diyarbakir. C'est vraiment connu. Tous les Kurdes, ils sont passés là-bas avec plein de tortures. Ils étaient morts. Ils étaient après. Quand ils ont, en fait, c'est un peu normalisé. Elle est sortie, mais elle est partie à la montagne, en fait, pour rejoindre, en fait, le PKK, exactement.
Ouais. Et la guérilla du PKK.
La guérilla du PKK, oui.
Je vous propose qu'on s'écoute un son assez court, mais on avait envie d'essayer d'entendre un petit peu quand même la voix de Sakineh.
Oui.
On s'excuse pour la musique derrière, c'est le montage qu'on a trouvé, c'est le seul montage qu'on a réussi à trouver avec une petite traduction en anglais pour pouvoir vous dire quand même de quoi il s'agissait.
İnsan tarihinin başlangıcı kadınla olur, kadının yaratım gücüyle oluyor, insanı kadınla kaybediyor. İlk eşitsizlik kadınla başlıyor, ilk mülkleştirme olayı, derin mülkleştirme olayı kadınla başlıyor. Kadın temel bir güçtür devrimde, kadın katılmadığı devrim ulusal kurtuluş mücadeleleri başarıya ulaşmaz. Bir yedek güç değil, etkin bir güçtür, temel bir güçtür, temel bir dinamiktir. Kürsel tarih kadın da tarihidir.
Voilà, donc c'était la voix de Sakineh Gencsiz. Bon, je parle sous votre contrôle. Elle dit les femmes sont une force fondatrice de la révolution.
Oui, elle a dit c'était les femmes, l'histoire des humains, il commence avec l'existence des femmes. Donc les femmes, c'était très important dans l'histoire et dans l'humanité.
Voilà, et elle termine en disant l'histoire du Kurdistan, c'est aussi une histoire des femmes.
Oui, l'histoire du Kurdistan, c'était aussi une histoire de femmes, oui.
Voilà, donc Sakineh Gencsiz, qui est morte, assassinée à 54 ans à Paris le 9 janvier 2013. Vous vouliez dire encore quelque chose sur la personnalité de Sakineh Gencsiz?
Il faut qu'on parle que elle, alors, si on parle de sa personnalité, puisqu'elle était vraiment forte, elle, même en Europe, même dans le parti PKK, en fait, c'est elle qui a commencé la lutte, même si on dit PKK, en fait, maintenant, au Rojava, il y a lutte des femmes qui sont tout au début, mais ça commence avec les Sakineh, en fait. Sakineh qui a pris le premier pas, et c'est elle qui commençait, c'est elle qui luttait, et même dans le PKK, peut-être vous avez remarqué, il y a YPG et YPG. C'est le seul, en fait, les Kurdes, en fait, ils ont seulement les Kurdes qui distinguent, en fait, deux parties, même dans le même parti, mais deux groupes de guérilla. Parce que les hommes, ils font un parti, les femmes, ils font l'autre, leur parti, mais ça vient avec la lutte qui a fait le Sakineh Gencsiz. Et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment important de citer. Elle a fait tout pour Kurdistan, mais pour les femmes kurdes aussi. Oui.
Alors, avant de revenir sur la situation au Kurdistan et de parler aussi un petit peu de où on en est aujourd'hui, même si dans les milieux militants, on en parle, mais enfin, tous les auditrices auditeurs sont peut-être pas au courant non plus des dernières nouvelles. On va se tenir un peu informés avec vous. Mais on va quand même revenir sur cet assassinat en lui-même, puisqu'il y a eu là récemment des événements nouveaux, et notamment la mort de l'assassin présumé. On va pas dire son nom parce que ça ne mérite pas, mais un tueur, un espion, très probablement un homme donc qui travaillait pour les services secrets turcs. Oui. Alors il faut savoir que sa mort qui est intervenue en décembre, donc tout récemment, intervient au bon moment puisque le 23 janvier normalement devait démarrer son procès à Paris. Donc une mort quand même, il faut le dire, assez suspecte, qui arrive en tout cas à point nommé pour l'État turc évidemment, dont on imagine aisément qu'il est derrière ce triple assassinat, mais aussi finalement pour l'État français, pour les États européens, qui évidemment pour qui c'était très difficile d'assumer diplomatiquement un procès de ce style-là. Je vous disais, cet homme est mort officiellement, cet assassin est mort officiellement d'une maladie grave au cerveau à 34 ans, hein, donc très jeune, le 17 décembre dernier, alors même qu'on n'avait absolument pas évoqué avant de dégradation de son état de santé, ce qui ne fait que ajouter des soupçons quant à sa mort. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, comment vous voyez, vous, cet épisode-là, et du coup, évidemment, l'annulation du procès?
En fait, pour nous, vraiment, c'est une colère, puisque M. Valls, le jour que les trois femmes sont assassinées, il est intervenu.
Sur le ministre de l'Intérieur
à l'époque. À l'époque, c'était ministre intérieur. Il est venu, il a promis que la justice ça va arriver, je vais faire tout pour que la justice prenne sa place. Malheureusement, ce n'était pas le cas. La personne, en fait, l'assassin, il a, comme vous dites, il mérite pas de son nom, on prononce son nom. Ils ont dit qu'il est dans un état grave. Et le premier procès, normalement, c'était prévu le 13 décembre. Après, sans excuse, sans raison, ils ont prolongé, ils ont annulé, ils ont
décalé.
Ils ont fait le 16 janvier, qui va durer normalement au 10 février. Mais, comme par hasard, il est mort le 17 décembre. Ça veut dire qu'on savait où... Et seulement, c'est lui qu'ils ont mis dans le procès pour qu'il puisse clôturer le dossier, puisque lui, en même temps, quand il était à l'hôpital, il a fait un plan
pour s'évader.
Pour s'évader, ouais. de prison, oui. Ouais. Et la personne qui l'a aidé, ils n'ont pas mis dans le procès. Pour nous, ça, c'est ils ont fait un accord avec la Turquie. Pour nous, c'est vraiment grave. Le gouvernement France, on attendait mieux que ça.
Ils ont limité les responsabilités à une seule personne pour ne pas avoir à faire le procès, clairement, des services secrets turcs
exactement,
et de la Turquie.
Exactement. Mmh. Et pourtant, ils ont bien, les avocats et le juge et le procureur, ils ont bien déterminé qu'il y a, ces services turcs, services secrets turcs qu'ils ont dans le procès, parce qu'il y a tellement de... la personne assassine, il est parti avant de... En fait, l'événement, il est parti plusieurs fois en Turquie. Ils ont mis dans le dossier les avocats des familles de trois Kurdes, de femmes kurdes. Mais malheureusement, c'est abandonné pour nous. Mais je ne crois pas qu'on va arrêter ici. On va encore lutter pour que ce soit la vérité, la justice qui vient. Quoi. Pour nous, on ne peut pas accepter que la personne, il est mort. Voilà, c'est les trois femmes. On sait que l'assassin, il est mort et c'est fini. C'est pas vrai.
Ça s'arrête là, ouais.
Voilà, c'est pas fini.
Alors, oui, il faut préciser. Alors, ça paraît assez évident, hein, évidemment, à tout le monde que les services turcs sont derrière cet assassinat. À qui profite le crime, là, je veux dire, il n'y a pas trop de questions. Mais il se trouve que même le réquisitoire du parquet et l'ordonnance du juge d'instruction, hein,
oui.
En France, pointaient directement la responsabilité du MIT, donc les services secrets turcs.
Exactement.
Voilà, et donc, vous voyez qu'on est. Et donc ça veut dire qu'ils ont quand même eux, hein, même avec leurs petits moyens, ont réussi, enfin leurs petits moyens par rapport à ceux de services secrets, veux-je dire, ont quand même réussi à établir quand même des choses, des éléments de preuve, donc notamment le fait que cette personne assassinée était infiltrée.
Oui.
Hein, au sein des milieux militants kurdes de Paris, alors oui. qu'il n'avait jamais été spécialement dans les milieux kurdes avant. C'est vraiment quand il arrive à Paris qu'il va aller d'un seul coup s'intéresser à ces questions-là. Avant, il vient plutôt de milieux nationalistes turcs. Donc
exactement.
Déjà, ça crée la
en
confusion.
En plus, c'est un endroit où les Français, ils surveillent. C'est un endroit où ils sont assassinés les gens, en fait, les trois femmes. Le 147 rue Lafayette.
Qui est la maison franco-kurde de Paris.
Exactement, ouais. Là-bas, normalement, le secret français aussi. C'était un endroit qui s'est surveillé, c'était connu. Qui rentre, qui sort, tout le monde, ils savent. Et la personne, ça veut dire qu'il y a un conflit entre, en fait, les Français aussi. Il sait que ce qui se passait, en fait. S'il ne savait pas, il n'aura pas lieu cette crime, en fait.
Bien sûr. Et alors bon, par ailleurs, l'enquête française a prouvé aussi qu'il y avait eu des appels téléphoniques cryptés. Il y a eu la mise à jour d'un certain nombre de liens avec le service de renseignement turc, hein, le fameux MIT.
Oui.
Donc tout ça, l'enquête l'a établi. Voilà. Donc là, il ne fait aucun doute que cette personne-là était en service commandé. On a même retrouvé des papiers classés certifiés secret défense, hein, enfin, secret défense turc, qui prouvent qu'effectivement il avait des ordres de mission pour infiltrer et très certainement pour assassiner Sakine et les deux autres militantes qui étaient avec elle.
Oui.
Voilà. Donc ça, ça a été établi. Évidemment, la mort donc de cet homme met fin aux poursuites judiciaires. Est-ce que quelles sont les revendications aujourd'hui par rapport à l'État français et les revendications qui seront portées ce soir, notamment dans la manifestation Place du Capitole,
en fait,
à 18h30.
On voulait que notre cri soit attendu, hein, soit, parce qu'hier aussi, en fait, le samedi, à Paris aussi, ce qu'on a dit aussi, c'était ça. On est là, on voulait que la vérité, la justice. On voulait que, avant qu'il parte, en fait, en 2017, François Hollande, il fait le procès, en fait, il essaye de... En fait, en Turquie, on peut dire que un président, il peut juger. On est dans un pays démocratique, on sait que le président, il ne peut pas. Mais quand on dit on veut la justice, ça peut être bouché un peu des choses. On veut que ça. On veut la vérité, on veut que ce soit MIT, en fait, le secret turc, soit.
Soit accusé, quoi.
Soit accusé pour ce procès, qu'il soit ouvert. Et, voilà. C'est pour ça qu'on va être ce soir, on va dire qu'on est là pour dire qu'on ne va pas arrêter de dire encore la vérité et la justice.
Alors, il faut savoir que c'est depuis les années 80 hein, que l'État turc utilise le sol français comme zone d'opération. Et jusqu'à présent, hein, c'est pas simplement Hollande ou Valls, les autorités françaises n'ont jamais montré une volonté quelconque d'arrêter cet état, ces pratiques déjà, et encore moins de juger évidemment ces crimes politiques. Je dis l'État français, mais aucun pays d'Europe d'ailleurs.
D'ailleurs, oui,
voilà.
C'est vrai.
Donc là, il y a évidemment, bon là, au cœur de ça, il y a évidemment aussi les relations diplomatiques avec la Turquie. Certes, un président ne peut pas juger ou un gouvernement ne peut pas juger, mais enfin, il peut par contre bloquer ralentir sérieusement, et c'est ce qui se passe clairement.
Oui.
On sait aujourd'hui l'importance, par exemple, qu'a pris la Turquie, notamment dans la crise entre guillemets des réfugiés syriens.
Oui.
Et là, on voit bien que l'idée, c'est d'absolument, il faut absolument pas mécontenter Ankara et le régime du président Erdogan.
Oui. Exactement. Je comprends pas. En fait, on est dans un pays démocratique. C'est le droit de l'homme. En fait, qui pour les Kurdes, c'est vraiment important. C'est un mythe, entre guillemets, la France, parce que c'est les pays où le droit de l'homme qui s'est voté. Il peut rester d'accord avec Erdogan. Comment il peut avoir peur pour les réfugiés, pour ne pas bouger, pour ne pas dire voilà, Erdogan, il faut arrêter ce que tu fais, c'est pas bon. Parce que maintenant, ce qu'Assad, il fait, il bombarde, il a bombardé, il a assassiné ses peuples propres.
Bachar el-Assad.
Mais Erdogan, il fait la même chose. Il y a plein de villes kurdes, ils ont bombardé. Après, peut-être Bachar el-Assad, il a que bombardé. Erdogan, il a supprimé, vraiment supprimé. Et les gens qu'ils n'ont pas quitté, ils n'ont pas quitté les lieux sous les tentes qu'ils ont. Maintenant, il neige en Turquie, en Kurdistan exactement. C'est le plus froid endroit géographiquement. Ils sont dehors et ils ont brûlé leur tente pour qu'ils partent d'ici. Et ils ont fait une politique un peu pour assimiler ouais. et le supprimer l'existence kurde. Ils vont faire avec les nouvelles constructions d'amener les réfugiés ou les Arabes, en fait les Syriens, dans le géographie kurde pour un peu d'éliminer et là, pour réfléchir pour que ce soit voté en fait élection. En fait, il joue sur l'élection encore que il va être toujours comme président quoi.
Oui.
Et c'est pour ça que on attend la France et tous les pays d'Europe aussi de voir ce qui se passait en Turquie. C'est pas que les Syriens, maintenant les Kurdes de Turquie aussi. C'est pas que le Kurde, malheureusement maintenant, c'est tous les démocrates en fait, un peu de qui fait un peu le respect des droits de l'homme aussi. Ils sont en prison, ils sont en menace par l'Erdogan, ils sont emprisonnés et récemment, avec comme c'est l'état d'urgence, ils ont comme ici, mais malheureusement ça passe différemment là-bas.
Ils se sont servis d'ailleurs en Turquie, il faut le dire, du fait qu'il y avait déjà un état d'urgence en France pour dire vous voyez, ça s'est fait en France, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Ça c'était après le coup d'état manqué contre Erdogan cet été.
Voilà, hein. Et 100 000 personnes, ils ont fait démissionner, en fait, pas démissionner, ils ont renvoyé les professeurs, les journalistes, tout, ils sont envoyés avec la loi qu'ils ont fait sortir tout en journée. Et après, voilà, tu as perdu ton travail, tu ne peux pas travailler. Voilà, aujourd'hui, ça a arrivé 100 000 personnes. Et ça, 100 000
fonctionnaires.
Hein, 100 000 fonctionnaires, exactement.
Renvoyés.
Et ça dépasse la société kurde. Là, c'est vraiment
ça, toute maintenant, la Turquie. C'est ouais. toute la Turquie qu'ils ont devenu. Et c'est pour ça qu'on attend une signe de vie d'Europe pour dire qu'arrêtez ce que vous faites. Ce n'est pas que maintenant les Syriens, maintenant les Turcs qui vont venir. Ce n'est pas en fait seulement les Kurdes, les Turcs qui vont venir aussi pour demande
l'asile politique.
Ouais. Oui.
Alors, on a du coup, très bien, Madame Akile, vous avez commencé déjà à nous parler de la situation plus largement, de la situation au Kurdistan. Et effectivement, il est bon de préciser qu'évidemment, si l'État français et les États européens laissent les services secrets turcs opérer sur leur territoire en toute impunité, évidemment, eh bien, s'ils font ça, ils ne vont pas non plus intervenir sur les affaires intérieures et sur la marche vers la dictature qu'opère Erdogan et l'AKP aujourd'hui. On va sur une petite pause musicale avant de revenir plus largement sur la situation du Kurdistan. On est toujours dans le magazine sur Canal Sud.
Hayem, hayem, kulim.
Chez Kurdan, nous sommes des filles kurdes, nous sommes des lionnes, nous sommes des combattantes. C'est interprété par Aynur Doğan.
Et c'est Keçe Kurdan, je crois.
Keçe Kurdan.
Voilà, la prononciation. On va progresser aujourd'hui en
prononciation. Des Kurdes.
On va progresser en prononciation kurde. Vous êtes toujours sur le magazine de Canal Sud. Aujourd'hui, nous recevons Madame Akideh et Monsieur Atak, membre de la maison franco-kurde de Toulouse. Qu'est-ce que c'est la maison franco-kurde Midi-Pyrénées ?
La maison franco-kurde, elle est créée pour les activités culturelles des Kurdes et pour l'intégration
ici en France. Des Kurdes qui arrivent, ouais. D'accord. Très bien. Alors avec vous, on évoque donc situation. On a parlé évidemment donc du triple assassinat qui a eu lieu à Paris de trois militantes kurdes. C'était le 9 janvier 2013. Et puis on a commencé à parler de la situation plus large des Kurdes et du Kurdistan. Et donc forcément, ça nous amène à parler de la situation en Turquie et de la situation en Syrie notamment. Alors on rappelle quand même, le peuple kurde, c'est le plus grand peuple en termes de nombre, le peuple le plus nombreux sans État. On estime à 35 millions à peu près de personnes.
C'est pas trop précis, mais il y a plusieurs sources, c'était 40-45 millions. Hein,
d'accord.
Parce nous, on a presque 25 millions pour les Turcs, pour l'État turquie. Ils ont précisé pour 20 millions, mais c'est une anecdote. Moi, depuis que je suis petit, ils disent que c'était 20 millions, mais je suis 50 ans, il y a toujours 20 millions. Donc je crois qu'il y a au moins 30 millions de Kurdes en Turquie là.
Oui, donc l'État turc minimise ces chiffres-là, oui.
Chez la Turquie, oui. Il y a presque 10 millions en Iran, il y a à peu près 8 millions en Irak, il y a 3 millions en Syrie, et donc il y a 2-3 millions aussi des pays, Kafkas et des pays anciens soviétiques.
Alors, je crois que M. Atak, vous vouliez revenir quand même un petit peu sur qu'est-ce qui nous avait amené à cette situation.
Ouais, aujourd'hui, donc si on est...
Attends, on va rapprocher un petit peu le micro parce que je crois que... Voilà.
Donc, aujourd'hui, pourquoi on est dans cette situation ? C'est un grand peuple en Moyen-Orient. C'est un peuple très ancien. Il y a 10 000 ans, son vit là-bas. Et avec les Perses, donc les Turcs et Arabes, les populations sont viennent après. Donc pour l'instant, on ne parle pas de ça, pour qu'elles viennent, ils viennent. Mais aujourd'hui, donc nous, pour le peuple kurde, c'est un peuple vraiment très ancien, de Mésopotamie. Donc, et pourquoi on est aujourd'hui dans cette situation, qu'on est toujours dessous de la génocide des quatre pays de Turquie, Iran, et Syrie, Irak. Et depuis le siècle, donc on a toujours problème de se gérer, on a toujours problème
cette autonomie, cette recherche d'autonomie.
Ouais. Ouais. Entre nous et des quatre pays. Depuis de la siècle, après la Première Guerre mondiale, donc ça aussi, c'était vient des pays occidentaux, c'était vient des Anglais en France, en Italie. Et 1923, c'était un traité de Lausanne, c'était accepté le nouveau État du Turc.
Oui, alors on rappelle qu'après la Première Guerre mondiale, c'est la chute de l'Empire ottoman, et donc effectivement, les États impérialistes, France, Angleterre, etc., vont essayer de se découper les ruines de l'Empire ottoman. Il se trouve que les Turcs, il va y avoir une révolte menée par Mustafa Kemal, qui va pouvoir remettre une suprématie turque sur ce territoire, mais le grand oublié, ça va être effectivement les Kurdes, le peuple kurde.
Les Kurdes, c'est dispersé par quatre pays, donc sur la table, et donc... si les Kurdes ont été ensemble, tous les peuples ont été ensemble avec un pays, peut-être jusqu'à maintenant, on n'a pas avoir tous ces problèmes dans le siècle. Mais comme les Kurdes ont été dispersés, quatre morceaux, là, Iran, Irak, Syrie, Turquie, et comme ça, les Kurdes, déjà, c'était dispersé, ils ne peuvent pas se réunir, ils ne peuvent pas vraiment faire un avancement de démocratique pour un pays. Donc, de siècles jusqu'à maintenant, il y a plusieurs fois, il y a des génocides sur les Kurdes en Irak. Le dernier génocide, on le sait, c'était 1988, avec le gaz chimique. Donc,
oui, le régime de Saddam Hussein.
Le régime de Saddam Hussein. Et en Turquie, depuis création de République jusqu'à maintenant, il y a presque 29...
la révolte des Kurdes.
Ouais. Et après, tout ça, ça a été défini par un génocide de militaires de Turcs. Et depuis 1994... Depuis 1984 jusqu'à maintenant, c'est un commencement avec le PKK, la création de PKK, donc c'était 1978. Et depuis 1984, il y a une guerre contre les militants du Kurde et de la Turquie. Donc tout ça, ça vient du problème d'intérêt entre les pays. Donc, aujourd'hui, ici, Sakine Jansez, il était tué ici, en plein de Paris. Donc, il faut chercher derrière ça. Qu'est-ce que c'est ? Derrière ça, il y a intérêt dans les pays européens et en Turquie. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, le premier mot, il y a le PKK, pour les Kurdes, c'est pas un parti qui s'était terrorisé. Depuis 10 ans, c'était dans la liste terroriste. Donc, PKK, c'était créé pour défendre les populations des Kurdes contre les génocides qui sont. Il était déjà beaucoup d'exemples.
Oui, contre les exactions de l'armée turque.
Oui, ça peut être arrivé et la prochaine aussi. Même maintenant, il y a le peuple kurde dans les quatre pays, c'est sous la dangereuse de quatre pays, en Turquie, surtout en Turquie. Donc, régime qui ça va en Turquie, ça peut être devenir un régime islamiste et nationaliste de Turc.
Et en tout cas, un régime autoritaire.
Autoritaire.
Construit autour de la personnalité du président Erdogan.
Depuis l'année dernière, depuis 1995, il y a presque 7 villes du Kurde en l'Est, presque supprimées. Ville de Şırnak, ça a été supprimé. Ça a été supprimé. Il y a 400 000 personnes qui ont changé sa place. Il y a
400 000 déplacés
40 000. Ça a été déplacé. Et donc, il y a, depuis l'année dernière, il y a presque 2 000 personnes qui ont été tuées, qui étaient mortes. Donc, et tout ça, c'est un problème de démocratisation de Turquie. Donc, nous, peuple kurde, maintenant, donc, en commencement, peut-être ils ont demandé un pays indépendant, mais maintenant, peuple kurde, avec tout ce que les pays sont vivre ensemble, ils ont demandé un système démocratique, confédéral démocratique.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus la remise en question des frontières qu'il pouvait y avoir. Maintenant, on peut accepter, s'il y a un vrai système démocratique, une autonomie.
Autonomie pour les Kurdes. Les Kurdes sont pour se gérer et donc utiliser tous les son droit d'exister, qui sont naturellement.
Bien sûr. Alors, quand même, il a été précisé, vous l'avez précisé tout à l'heure, Madame Akile, au moment de l'assassinat de Sakine Jansez et de deux autres militantes kurdes, il y avait effectivement des négociations de paix entre Öcalan, le PKK, et le gouvernement dirigé par l'AKP.
Öcalan, il a commencé à demander le peuple kurde, et donc avec le gouvernement de AKP, en 2013, Öcalan, il a déclaré que comme si l'État, il veut
la paix.
Oui, la paix, donc on peut faire une négociation pour pour changer le pays vers la démocratie, un système de démocratique, et donc pour droit des hommes, pour droit des peuples kurdes.
Donc il impulse ces négociations de paix, oui.
Oui, donc dès que comme ça, ils ont commencé à peu près 2 ans. C'est vraiment, il était beaucoup diminué des problèmes dans l'État Turquie. Et donc, les guerres, il a été cessé des feux, les guerres, il a été arrêté. Et il y a plusieurs Kurdes qui sont, même en Europe, en Europe et ouest de la Turquie, ils ont retourné du Kurdistan, de l'est de la Turquie. Et donc, c'est un temps qui a passé sans beaucoup de problèmes.
Il y avait quand même donc des retours, ouais, voilà. Des gens qui sont rentrés, d'accord.
Et donc,
vraiment, c'était le moment de la paix. En fait, tout le monde content. C'était le cessez-le-feu par le PKK et l'État turc. Les négociations se passaient vraiment bien. Jusqu'au moment, en fait, le 17 décembre 2015, en fait, c'était le moment que quand il a vu le peut-être vous avez entendu aussi, le Fethullah Gulen, en fait, il a essayé un coup de feu aussi. Coup de feu, on dit, contre le Erdogan, en fait.
Coup d'État, oui.
Coup d'État.
Gulen, donc, qui est le chef d'une confrérie musulmane qui avait aidé, on le rappelle, Erdogan à arriver au pouvoir. Et maintenant, ils sont ennemis. Lui, il est réfugié aux États-Unis, voilà. Oui. Et il est accusé d'avoir fomenté ce coup d'État, voilà.
Et comme Erdogan, il a vu qu'il a vraiment, il a volé, il a fait plein de choses. À ce moment-là, il a essayé d'éliminer Abdullah Öcalan et les négociations pour essayer de cesser, et il a dit que je ne connais pas tout ce que vous avez parlé, tout ce qu'il a fait l'accord, il a dit que je ne connais pas. Et à ce moment-là, ça commençait encore la guerre de destruction de l'État vers les villes kurdes.
Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'à partir du moment où Erdogan veut remettre, veut d'abord, comment dire, asseoir son pouvoir et aller vers un pouvoir plus fort, plus autoritaire. On rappelle, il était Premier ministre, il a créé un régime présidentiel, ouais. il s'est taillé un rôle sur mesure, il a fait construire un palais à Ankara. Enfin bon, il est dans des rêves de grandeur comme ça, un petit peu redevenir un espèce de sultan.
Oui,
tu vois, ouais. Sultan. Hein, c'est vraiment son projet. Et donc, à partir de là, donc, guerre avec les gulenistes. Oui. Et puis, mais dans le même temps, aussi reprise du coup du conflit avec les Kurdes.
Oui, ça va, si tu veux, ils ont fait devenir, avec le Gulenistes, de toute façon, il était, depuis 2002, il était avec le Gulen, tu sais, avec ses alliés, contre les militaires en Turquie, on dirait que c'était un peu laïque, tu sais, c'était laïque, mais c'est pas été démocratique, tu sais,
c'est ça, kémaliste,
on a beaucoup de problèmes, tu sais, il y a des laïcs en Turquie, par exemple, avant, c'était toujours des gouvernements, tout ça, mais derrière, il était militaire, c'est le militaire qui gérait la Turquie, donc les militaires, ils se considèrent comme... protection des laïcs, tu sais.
Oui, et les garants de l'esprit de Mustafa Kemal.
Oui, Mustafa Kemal, oui. Et depuis 2002, les gulenistes et AKP, donc les gulenistes étaient dans la même partie, et AKP, ils ont fait, si tu veux, ils font une, contre les militaires, ils font commencer à faire, comment il faut dire,
Une association, hein, tous les deux, pour essayer d'arriver à contrer...
Éliminer tous les généraux, tout ça. Il était aux prisons pendant 4 ou 5 ans. Et donc, dès qu'ils ont éliminé tous
les kémalistes,
nationalistes, donc laïcs, laïcistes, et après, ils ont commencé, entre eux, ils ont commencé des problèmes, parce que chacun, il voulait prendre pouvoir pour gérer le pays. Donc, pour gérer le pays, c'était sur le même chemin, mais idéologiquement, ils n'ont pas été le même chemin.
Donc, et au bout d'un moment, forcément, ils se retrouvent face à face.
Donc, les Gulenistes, ils disent que donc, c'est nous qui gèrent le pays, donc, parce qu'avant ça, en 2009 aussi, ils ont arrêté presque 10 000 personnes de HTP.
Des
Kurdes avec les Gulenistes, avec tous les...
HTP, en fait, donc Parti démocratique en Turquie,
qui
défend la cause kurde notamment.
Ouais. Hein,
maintenant, Erdogan, il soupçonne à eux, donc en 2009, il est arrêté plusieurs militants des Kurdes et tout ce qui est à maire des Kurdes, et après ça, il a soupçonné à eux. Maintenant, Lui, il a fait, c'est la même chose de Gulen, tu sais.
Donc, oui, il sait faire le nettoyage, oui.
Ouais, il fait le nettoyage, il purge les tout ce qui est kurde, qui sont comme kurde qui a un politique, donc il
même pas kurde, en fait, même si vous dites que Erdogan, il veut créer un dictatorial et un régime dictatorial, vous êtes terroriste, on peut vous mettre en prison, en fait.
Il y a une aux démocrates, actuellement.
Exactement.
Mais quand même, on s'interroge quand même sur, au moment où, justement, l'AKP et Erdogan veulent installer un pouvoir aussi fort, ils ont besoin, à ce moment-là, de réactiver, entre guillemets, l'ennemi kurde. Ils ont besoin de recréer cette guerre.
Il y a un seul barrage qui reste contre Erdogan, et son gouvernement de maintenant, il y a un barrage de Kurdes. Donc, il voulait disperser ça, il voulait arrêter tout ce qui est personne politique des Kurdes. Pour les Kurdes, ils ne pourraient pas se gérer. C'est pour ça qu'ils ont commencé à éliminer HTP. HTP, maintenant, il y a le coprésident de HTP. Il y a deux coprésidents de HTP qui sont en prison avec 10 députés, en totalement.
Oui, 12. Parce que l'HDP avait fait des scores assez bons aux dernières élections.
Voilà, parce qu'il était. Il y a presque 44 maires sont maintenant en prison. Donc, il y a.
Donc, des maires du côté plutôt au Kurdistan, là, plutôt.
C'est maire de HDP, c'est le Kurdistan, c'est maire de Kurdes, parce qu'en total, il était 106 maires. C'est 106 mairies de Kurdes en l'est de la Turquie, même de l'ouest aussi, il y en a deux. Et donc, tout ça, ça a été éliminé maintenant. Il y a pas de...
Ils ont mis, ils ont mis des mandataires. C'est maintenant les mandataires qui dirigent parce qu'ils ont mis en prison, en fait.
C'est ça, les mairies sont sous tutelle directe de l'État.
Sous tutelle de l'État, exactement. Oui, exactement.
Donc, complètement squeezer les élections municipales, ça n'a plus aucun intérêt, quoi.
Aucun, oui.
Maintenant, tout ce que les maires du Kurdes sont fait en Kurdistan, et maintenant, ils vont faire détruire tout. Par la mandataire, par l'administrateur, voilà. C'est géré avec l'administrateur. Donc à la fin, en Turquie, en Rojava, pour les Kurdes, en Turquie, en Rojava, où avant c'était pour l'Irak aussi, la Kurdistan-Irak, maintenant ça a été changé un petit peu par rapport à son dernière institution qui a été acceptée par le peuple irak. Mais la Turquie maintenant, donc le gouvernement Erdogan, déjà il voulait changer la Turquie vers un régime dictatorial, donc... Et créer un régime dictatorial et avancer son...
pouvoir.
Ouais, son pouvoir toujours. Donc déjà, il a un plan jusqu'à 2023.
Il a un plan sûrement pour après.
Ouais,
et après.
Et après, s'il a créé un système dictatorial, il peut avancer donc jusqu'à une mort.
Bien sûr. Alors, on comprend bien que les Kurdes sont un obstacle et sont un barrage sur ce chemin-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt pour lui, auprès de la population turque, de dire, de faire valoir à l'ennemi kurde, de faire valoir un autre ennemi et de parler de la guerre comme ça des Kurdes? Est-ce qu'il n'a pas un intérêt politique, de communication, quoi, de montrer ça et de pas, comme ça on voit pas ce que lui est en train de faire à côté?
Bien sûr, c'était un peu de fermer les yeux de peuple turc qu'ils ont soutenu Erdogan, et depuis toujours ils étaient prêts de voir comme des ennemis les Kurdes. Jamais ils étaient acceptés, le peuple, on dirait que ils sont, en fait, on vivait ensemble, parce que après le 90, il y avait plusieurs immigrés qui sont venus vers l'ouest de Turquie, dans les villes turques, et ils vivaient là-bas. Mais le moment quand il y a conflit, les Turcs, ils ont commencé de chasser les voisins, en fait, leurs voisins. C'est pour ça que derrière, il peut faire, et aujourd'hui même, dans 4 heures, il peut faire voter un article de constitution. Il a commencé à
modifier la constitution.
À modifier la constitution pour qu'il soit pouvoir tout seul, quoi. Et personne dit rien. Les personnes qui disent ce que vous avez fait, c'est la fin de la Turquie, en fait, la République de la Turquie. Ils ont mis en Turquie. Il met en prison. Justement, aujourd'hui, il y avait une manifestation par les partis
démocratiques,
pas démocratiques,
CHP. Parti CHP,
République, kémaliste. Ils ont fait une manifestation, les policiers, ils ont intervenu devant l'Assemblée nationale. C'est pour ça, maintenant, elle est, bien sûr, pour fermer un peu les yeux des peuples turcs, il fait...
Il devrait continuer la guerre contre les Kurdes pour...
asseoir son pouvoir.
Asseoir son pouvoir, mais pour avoir les soutenir tous les peuples turcs.
Pour avoir le soutien du peuple turc.
Oui. Donc, Erdogan... Donc, mon idée, il va pas reculer. Parce que s'il recule, donc, il va tomber. Parce que en juillet 2015, après l'élection, son gouvernement, déjà, il n'a pas pu créer un nouveau gouvernement.
Oui, il a eu une première élection où il n'avait pas eu la majorité absolue. Il était largement en tête, mais il n'avait pas la majorité absolue.
Parce que les Kurdes, il a vraiment avancé sur la démocratisation. Il a fait accepter par certains groupes de Turcs aussi. C'était commencé à soutenir les partis des Kurdes, le parti HDP.
Le parti démocrate.
Et après, donc, dès qu'Erdogan il voit qu'il ne peut pas avoir, un nouveau gouvernement pour avancer son pouvoir, donc il a le process qu'il était commencé en 2013.
C'est fermé.
C'est lui qui l'a arrêté. Il a commencé la guerre contre les Kurdes comme avant.
Oui, c'est ça. Donc il a annulé ses élections-là qui avaient donné un très bon score au HDP et qui lui surtout enlevé la majorité absolue au HDP.
Oui, c'est ça. Dans deux mois, il a refait des...
Il a réussi son pari après avoir déclenché la guerre contre les Kurdes, a redéclenché la guerre contre les Kurdes. Oui. Et effectivement, il a réussi à refaire une espèce d'union nationale, à reconquérir la majorité absolue.
Il a pris une majorité absolue et donc de là à maintenant, la guerre, c'était contre les Kurdes et totalement, il continue. C'est pas qu'en Turquie, en Irak, en Syrie aussi. Parce qu'en Irak aussi, si tu veux, le parti PKK, militant de PKK, par toute la Kurdistan, il est resté contre la Daïch. Tu sais. La Daïch, dès qu'il commençait à occuper le territoire du Kurdistan Irak, et PKK, militant de PKK, il commençait à combattre surtout les femmes. Tu sais. Et à Kobané aussi, de Rojava, on dit, le parti syrien aussi, le Kobané aussi, donc si tu veux, c'était militant de Kurdes qui s'est fait arrêter l'avancement de Daïch.
Rojava, donc, le Kurdistan syrien, la partie.
Et le Kurdistan Irak aussi. Donc Shengal, c'était Sinjar en Turquie, nous on dit Shengal. Shengal, c'est une partie de...
C'est une ville de Kurdes,
mais pas...
Yézidi.
Kurdes Yézidi. Donc Daïch, dès qu'il commençait à faire les...
Ils ont fait
occuper là-bas, il a fait beaucoup de génocides sur eux. Il y a presque 3 ou 4 000 personnes,
ils étaient morts. 5 000 femmes, ils ont volé, et après ils sont vendus comme esclaves. Ils sont violés et torturés, ils ont récupéré leurs enfants. Et
une pratique assez courante chez les groupes djihadistes.
C'était pour eux, pour Yézidi, les Kurdes Yézidi, en fait, ils ne sont pas musulmans, en fait, et c'est vraiment un parti fermé, en fait, un groupe fermé qu'ils ont
enlevé,
mais les Yézidis, en fait, ils ont peur. C'est une région que c'est occupée par les Yézidis, c'est Sinjar. C'est le Daesh qui l'a fait exprès pour que ce soit fini, en fait, ce soit un génocide pour le peuple Yézidi. Mais le parti PKK, en fait, le PKK qui est venu intervenir, qui sauvait les Yézidis. Et maintenant, il y a une négociation justement récemment. Le premier ministre de Turc, Bin Ali Yildirim, il est parti en Irak, de faire un peu de négociation pour que les PKK ils quittent Shengal. À condition s'il peut quitter en fait Beşika, une ville de Kurdes, en fait d'Irak, parce que il a mis ses soldats là-bas.
Son base de militaires sont là.
Voilà. Donc
si tu veux, à la fin, moi je voulais dire ça là. La Turquie, ça va ramener des grandes dangereuses pour les Kurdes. pour les Kurdes en Moyen-Orient. Ce n'est pas qu'en Turquie. Parce que la Turquie, avec son force militaire, il a commencé à occuper en partie de Rojava, donc Jarablus, tout ça. Et il y a 3 cantons de Kurdes en Rojava. Donc, entre les cantons, entre Afrin et Kobané, il y a des Jarablus. La Turquie, il a occupé ça pour les cantons de Kurdes ne correspondent pas. Donc, il laissait une ouverture.
Pour les couper les liens, oui.
Il laissait une ouverture donc de circulation de Daïch, si tu veux, entre la Turquie
et... Pour qu'il fasse facilement.
Oui, passe facilement vers l'Alep ou... Donc, l'Andouaki, Daïch, oui. El Bab. Donc, il occupait là-bas. Maintenant, son politique en mondial, il fait la propagande comme quoi il fait la guerre contre Daïch. Il fait la guerre contre Daïch, qu'est-ce qu'il a fait ? Son allié, c'était qui ? Son allié, c'était Al-Nusra. Al-Nusra, c'était une organisation qui était un parti Daïch avant.
Tu sais. Un parti qui soutenait les djihadistes.
Oui, soutenir les djihadistes. Tout ce qu'il lui, maintenant, il a soutenu, ce sont tous djihadistes, comme Daïch. Ça ne change pas. Ils n'ont pas un projet en Syrie, un projet démocratique. Donc, les Kurdes en Syrie, il a un projet système confédéralisme démocratique. Donc, c'est un système confédéralisme démocratique. Ça va donner l'occasion pour tous les peuples de vivre ensemble et démocratiquement.
Oui, alors là, c'est une chose très importante que vous évoquez, monsieur Atak. Donc, effectivement, on a parlé beaucoup de la Turquie, mais évidemment, on l'a dit, le Kurdistan, ils sont sur 4 États. Évidemment, actuellement, ces problématiques, elles sont très liées. Oui. Et il faut donc, le temps passe, mais il faut vraiment absolument qu'on parle de la Syrie. D'abord parce qu'il s'y passe des choses très intéressantes politiquement, mais aussi parce qu'évidemment, actuellement, en Syrie, la situation est en train de bouger et que les Turcs et les Russes se sont accordés sont en train d'essayer de dessiner l'avenir de ce pays, de la Syrie. Alors, les Kurdes, eux, proposent une alternative à ce plan, on va dire, turco-russe, à cet avenir turco-russe qu'ils essayent de nous dessiner. Et notamment, donc, ils ont décrété, là, au sein du Rojava, une région autonome.
Oui. Hein,
et ils viennent de mettre en place, là, ce qu'on peut appeler une constitution, en tout cas, un contrat social. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place sur un système alternatif de démocratie directe, non autoritaire. Ça, il faut en dire un mot, effectivement.
Oui, ça, pour les Kurdes en Rojava, ils ont un projet pour tous les peuples en Syrie, donc système confédéral démocratique. Ce système confédéral démocratique, il donne, donc chaque région et se vivre dans le confédéralisme, mais chaque région, il se correspond à l'autre. Et dans le système démocratique, toutes les populations pourraient rester ensemble. Par exemple, si la région Rojava, c'est une région des Kurdes, donc avec ce système, toutes les populations des Arabes et Turcs, parce que là-bas, il y a beaucoup de différentes populations, des Arabes et des Turcs sont vivre ensemble dans la même région et dans son existence nationale.
Culturelle.
Donc, respect des identités,
des personnalités,
tout ça, et des langues, tout ça. Mais donc, dehors de ça, il n'y a pas une position de changement de Syrie. Par exemple, il n'y a aucune organisation qui sont
un accord.
Sont un projet. Tu vas faire avec les islamistes et les djihadistes, qu'est-ce que tu vas ramener un régime d'islamistes? Ça ne marche pas, parce que jusqu'à maintenant, c'était un régime de Bachar al-Assad aussi, c'était trop nationaliste, ils ne sont pas été démocratisés, c'est pour ça. Il y a des problèmes toujours en Syrie, il y a un problème avec les Kurdes, avec des autres différentes populations. Donc avec cette proposition des Kurdes, il peut rester dans un pays, si tu veux, unique, une nation aussi. Donc, mais c'est avec un système confédéral, un confédéralisme démocratique. Donc de ça, et la négociation avec la Turquie et la Russie, ils ont aussi, il n'y a pas une proposition démocratique, qu'est-ce qu'il va faire?
Non, il n'y a pas de proposition démocratique, il y a une proposition de découpage du territoire selon les intérêts turcs et russes, clairement.
Voilà, les intérêts turcs et russes, donc il y a Par exemple, eux, ils n'ont pas appelé les Kurdes en Rojava, donc c'est une grande force de Syrie qui pourrait jusqu'à maintenant empêcher, même s'ils étaient d'accord avec la Russie, avec Washington, avec les Européens aussi, les pays européens aussi, donc YPG, YPG, donc sans d'appel de ces forces des Kurdes, il n'y a pas une possibilité pour arranger un système de là-bas. En plus, ils n'ont pas une proposition d'un système, un nouveau système démocratique. Donc, il fait un sommet, mais il n'y a pas de Kurdes là-bas. Comme avant, ils ont fait un sommet de Genève 1, Genève 2, aussi, ici à Suisse. Ils n'ont pas appelé les Kurdes, donc après, ça n'a pas été marché en Syrie. Pourquoi ?
Oui, les Kurdes sont exclus de tous les processus actuellement internationaux.
Oui,
de,
voilà, oui. C'est ça.
Pourquoi ? Parce que, si, comme avant, si ils n'ont pas connaître les Kurdes à...
Pas reconnaître le peuple kurde.
Le peuple kurde en Syrie. Donc, toutes les propositions qui sont ramenées là-bas, ça va être pas rangé de l'API. Ça va toujours rester dans le problème. Et...
Oui, il n'y a pas de possibilité de résoudre le problème.
Oui. Alors... En plus, les autres, ils n'ont pas de projet. Donc, ceux qui n'ont pas compris les Kurdes, donc les Kurdes là-bas, ils ont un projet démocratique, mais tout le monde, ils ferment les yeux sur ce projet. Mais par exemple, la Turquie, donc ça vient de Turquie, on le sait. La Turquie, il essayait supprimer les Kurdes là-bas. Donc, il essayait empêcher toutes les politiques des Kurdes de là-bas vers l'international. Donc, pour les Kurdes là-bas, ils ne peuvent pas connaître dans l'international. Donc,
par la communauté internationale.
Par la communauté internationale. Donc, il essayait de faire l'empêcher tout ce qui est avancement des Kurdes et
de la possibilité de reconnaissance du peuple kurde par d'autres États.
Exactement, oui, c'est ça. Donc, pour. La Turquie, en plus, ça reste pas de ça aussi, là. Il fait le chantage pour le pays européen. Il reste à côté de la Syrie, la Russie.
Oui, il est maître du jeu, là, notamment,
ouais,
avec
ses réfugiés. Il fait le chantage des réfugiés qui sont restés en Turquie jusqu'à maintenant et sur l'Européen. Donc, les Européens, surtout l'Union Europe, il faut arrêter ça, là. Il faut... dire en Turquie, donc tu arrêtes en ligne, tu sais. Parce que la Turquie, vraiment, il fait beaucoup de pression sur l'Européen aussi, à cause des réfugiés qui sont restés là-bas, et à cause des jeux qu'il a joué contre les Kurdes, entre l'Amérique et la Russie. Donc à chaque fois, il restait à un côté. Et donc la Turquie, maintenant, le régime Erdogan, c'est pas qu'il est dangereux pour les Kurdes, il est dangereux pour le Moyen-Orient et le mondial aussi.
Oui, c'est important de le préciser. Ouais. Alors juste quand même un petit mot, parce que ça a été dit tout à l'heure rapidement, mais on a bien compris. Donc ok, l'Europe a besoin actuellement, en tout cas se sert d'Erdogan pour maintenir la forteresse qu'elle est, pour maintenir ses frontières. Voilà. Mais donc là, il y a un intérêt politique, on l'entend bien. Mais vous disiez aussi, Erdogan, lui, se sert du coup de ces réfugiés-là pour faire des camps au sein du pays kurde.
Oui. Hein,
il amène, il amène donc des populations arabes assez nombreuses au cœur du
une logique de colonisation, quoi.
Colonisation, oui.
Par les réfugiés, à leur insu.
Oui, les gens qui sont déjà intégrés, qui en fait les Syriens qui sont venus en Turquie, qui vivent dans différentes villes de Turquie, ils ont dit, ils engagent, ils disent qu'on va vous construire des maisons, vous allez venir ici. En fait, ici, c'est les villes kurdes qui sont supprimées par le peuple kurde, et ils vont reconstruire en fait des nouveaux logements, en fait, comme logements sociaux. Vous voyez, dans deux jours, des logements, ils vont mettre des gens de faire des colonisations justement au Kurdistan.
Par exemple, il y a une ville de Kurdes, il s'appelle Marash. Marash, c'est un Kurde de Alevi. C'est un Kurde d'Alevi, ils ne sont pas sunnites comme. Ils ramènent les populations. Donc il y a presque 3 millions, et ils ont dit que c'était à 3 millions de réfugiés là-bas, des réfugiés de Syrie, sont arabes et sunnites. Ils mettent
un camp.
Un camp dans les peuples kurdes le peuple kurde. Marache, c'est un peuple kurde, mais c'est un kurde alevi. Donc, si tu veux, là-bas, il y a beaucoup de problèmes. Là. Il y a même en Syrie aussi, il y a des alevi, il y a des chiites.
Alevi, c'est chiite, en fait.
Ouais, c'est des
chiites. Oui, alevi, c'est une branche du chiisme.
Oui, voilà. Donc, ils voulaient faire les camps là-bas et après, définitivement, faire les logements sociaux pour mettre là-bas, géographiquement, pour faire changer le...
Oui, la démographie.
La ville,
démographie.
La composition démographique de ces endroits-là.
Exactement.
Pour faire changer de là-bas, donc faire majorité des sunnites. Parce que ce gouvernement, donc, lui, il veut un régime turc, islamiste et sunnite. Donc, ouais. Il veut faire changement sur la population comme ça.
Ouais, c'est un projet totalitaire et cohérent. Alors, bon, on ne pourra pas parler plus en détail, évidemment, parce que le temps passe et qu'on a rendez-vous avec les syndiqués CGT du CHU hein, pour nous parler un peu de la situation. Juste quand même, alors bon, effectivement, donc, on l'a dit, hein, aujourd'hui, au Kurdistan, et notamment au Kurdistan côté syrien, donc au Rojava, il y a un projet qui est un projet alternatif au projet impérialiste de la Turquie et de la Russie, ou en tout cas de la Syrie sous influence russe, voilà, avec des choses hein, qui sont de l'ordre du confédéralisme, de la démocratie directe. Oui. On sait que les théories de Murray Bookchin, théoricien américain, sont très importantes et très développées, très discutées au sein du Kurdistan, hein, les théories de municipalisme libertaire, d'écologie sociale. Donc on vous invite à aller vous renseigner sur ce qui se passe politiquement.
Et de féminisme aussi.
Voilà. Ouais. On parle de Murray Bookchin parce que c'est un grand nom, mais évidemment il y a bien d'autres penseurs qui influencent les Kurdes. Il y a aussi des penseurs kurdes, hein, et là il y a quelque chose, il y a quand même un laboratoire là vivant de démocratie directe, et ça c'est au Kurdistan actuellement. Ouais. Et évidemment on en parle peu dans les mass médias, et on vous en reparlera dans le magazine parce que là il y a beaucoup de choses à dire. Quand même, juste pour terminer, qu'est-ce que ça peut être l'avenir de cette Syrie? Comment vous voyez la à court terme, hein, je ne vous demande pas de faire forcément des pronostics, mais à court terme, maintenant on sait que l'opposition à Bachar el-Assad a perdu, il reste quelques combats autour d'Alep, etc. Mais avec la chute d'Alep, c'est quasiment inéluctable. On voit bien que l'organisation État islamique, hein, donc Daesh, va tomber. Les Kurdes vont se retrouver coincés. Ils auront aidé à faire tomber l'État islamique, mais est-ce qu'on n'a pas peur de les retrouver coincés entre la Turquie d'Erdogan d'un côté et la Syrie de Bachar el-Assad et de Vladimir Poutine de l'autre côté?
On n'a pas peur.
Non.
Mais on n'a pas peur puisque les Kurdes, ils étaient toujours là. Les Turcs ils sont déjà prévenus, les Russes ils veulent gérer Moyen-Orient, mais les Kurdes ils étaient toujours là. Je crois que ça suffit ils ont mérité maintenant un pays indépendant, mais malgré ça les Kurdes ils sont vraiment démocrates. Ils disent pas que nous on est tout seuls ici, ils disent qu'on est un mosaïque de peuples culturels, et c'est pour ça que même s'ils créent, en fait, parce que récemment, ils ont fait une constitution, en fait, aussi, comme vous dites, écologiste, tout, mais pas seulement avec Kurdes, seulement. Vous voyez, ils ont changé. Avant, c'était marqué Rojava. Rojava, c'était signe un peu les Kurdes. Pour le respect d'autres peuples, ils ont fait le
Confédération
Nord de Syrie. Oui.
Nord de Syrie,
parce que Rojava, c'était un nom turc.
C'était un kurde. C'est pour ça qu'ils ont même supprimé ça, parce que c'est pour le respect. Et ils étaient d'accord. Et il y avait plusieurs jours, c'est duré, les conférences pour qu'ils puissent créer une constitution comme on peut créer ensemble. C'est pour ça que l'Erdogan, ça ne va pas durer autant, même s'il crée son système islamiste, parce que ce qui se passait vraiment en Turquie aussi, côté Turquie aussi, c'était vraiment affreux. Et la Russie, il peut gérer jusqu'à quelques moments, mais après, les peuples kurdes, ils vont se réunir pour qu'ils puissent s'en sortir. Et Bachar el-Assad, je ne crois pas qu'il va être si... En fait, peut-être il peut choisir pour encore diriger un peu plus, mais ça va terminer en fait, ça va pas durer comme ça. Voilà.
Le peuple kurde, c'est une force, nouvelle force de Moyen-Orient. Si tu veux, c'est bien organisé et surtout, c'était bien organisé démocratiquement. Ils ont des projets de l'avenir de Moyen-Orient, surtout en Turquie, Syrie, en Irak. Donc, nous, on pense que dès qu'on n'a pas réglé, arrangé de problèmes de Kurdes en Moyen-Orient, on jamais pourrait créer un Moyen-Orient démocratique. Donc,
on va avoir toujours conflit.
C'est pour ça, les pays européens et Amérique et en Russie, donc s'ils voulaient un pays Moyen-Orient démocratique, ils devraient soutenir le peuple kurde parce qu'il y a un seul force qui pourrait faire mettre un système démocratique en Turquie, en Syrie, en Irak, même. Donc, la Turquie, pourquoi il part ? La Turquie, il part à le Rojava, ça peut être un signe. Ou soit ça peut être un changement pour la Turquie aussi. Parce que
bien sûr, c'est une alternative à leur porte.
Voilà. C'est pour ça que la Turquie a essayé de faire empêcher tout ce qui est le pouvoir, les Kurdes en Syrie, les Kurdes en Rojava, il a tenu. Il veut faire détruire tout. Donc il veut empêcher les Kurdes en Syrie pour avancer sur le système démocratique parce que ça... Pour eux, ça va être un mauvais
exemple, un mauvais
exemple
modèle
pour la Turquie. Donc,
en deux minutes, parce qu'on a, il faut vraiment qu'on termine.
D'accord. Donc, pour ça, pour arranger tout ça, d'abord, il faut qu'on demande le soutenir du peuple Europe démocratique, donc pour la Rojava, pour les Kurdes en Turquie aussi. Donc, on demande la libération de Jalan, on demande le PKK pour...
la légalisation,
on demande pour sortir le PKK dans la liste des terroristes en Europe, parce que ça va... Dès que les Européens aient fait ça, donc la Turquie va être obligée pour faire une négociation avec les PKK, donc ça va pour ranger un pays, vraiment mettre la démocratie en Turquie aussi. Ça va être un clé, si tu veux.
Très bien, bah écoutez, ça sera la conclusion de cette interview qu'on a un petit peu dépassé, mais écoutez, c'était très intéressant. On reviendra évidemment sur ces questions kurdes. On rappelle ce soir donc rassemblement à 18h30, place du Capitole, rassemblement en hommage à Sakine, Fidan et Leyla, assassinés en janvier 2013. Il y a évidemment Rojava, les combats continuent. Si vous voulez en savoir plus et soutenir le Rojava, vous avez deux adresses internet que je vous donne, rojava.xyz, Rojava.xyz, ça vous amènera sur le site du Secours Rouge, voilà, qui fait des campagnes, des appels à dons, des appels à matériel pour les combattants au Rojava. Et il y a également un autre site web, rojavafrance.fr, rojavafrance.fr, si vous pouvez donner pour acheter des médicaments, pour l'aide alimentaire, etc., etc., l'aide pour déminer aussi les territoires. Ça, c'est au Rojava.
Il y a des besoins très très urgents là. Il y a un appel à dons qui tourne en ce moment.
On vous en fera lecture demain de l'appel général. Voilà. Est-ce que vous avez une adresse web peut-être à donner pour la maison franco-kurde ou pour les...
Adresse web
non. Alors bon, on vous le rappelle, l'appel de la manifestation de ce soir, il est donc c'est la maison franco-kurde Midi-Pyrénées, mais c'est aussi le comité de soutien au peuple kurde. Ce sont des organisations que vous pouvez retrouver notamment sur le web et notamment sur Facebook. Et il y a également actuellement la campagne de soutien au bataillon international de libération au Rojava, soutenu notamment par l'action antifasciste Tolosa et par Voix prolétarienne Toulouse. Voilà. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous. Vous avez nous donné une occasion pour essayer d'expliquer notre problème de Turquie en Rojava.
On continuera évidemment à couvrir le combat du peuple kurde. Longue vie au combat du peuple kurde. Vous êtes sur Canal Sud et on va s'écouter un petit morceau. Ayşe Şan, vous nous présentez ?
Ayşe Şan, oui. Vous avez bien prononcé Ayşe Şan, les dîners.
Très bien, c'est le magazine sur Canal Sud.
Day kaldın aleyh hayatı. حاجي خانم بغيس ناخذ مكسب راني انسر منه دولة جبوق وذي التلفون بكل التلقين برا عيشان عمنا دلشي وتي ورا عزيزي برد لي منه دبرا ولا مبقى دكتور حكيمي ولا جغل عيشان عم كسي متنني داي وغضي غريب بداي داي وغضي بكسم داي كسم نماري بدنيا الدمر مداي
زرع علينا تنبر سريتنا الضائع